quelques chants avant de terminer le culte. Et je vais demander à Béatrice et à Patricia si vous pouvez m'aider en lisant la petite lecture. On a une lecture en Nombre chapitre 13, le verset 27 au 33. Après, en Romains 14, 1 à 11. C'est tout affiché. Est-ce que, Patricia, tu peux commencer, s'il te plaît?
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse.
Ah, pardon, excuse-moi. Je vais faire un petit synthèse pour nous donner le contexte. Le contexte, c'est que les enfants d'Israël, ils ont été délivrés d'Égypte. Ils ont passé par la mer Rouge. Alors, les ennemis ont été noyés. Dieu les a délivrés. Après, Dieu les a envoyés dans le désert. Et puis après ils ont arrivé à le mont Sinaï, Dieu les a sanctifiés. Et là, l'objectif de Dieu, c'est qu'il entre dans le Canaan, dans la terre promise. Après, ce que nous allons lire, c'est la rencontre où Dieu a dit à Moïse d'envoyer 12 hommes, les chefs de chaque tribu, pour aller espionner. Voilà, le Canaan, ok? Bien entendu, c'est Dieu qui les a déjà donné ça comme héritage. Bon, maintenant, le contexte, vas-y.
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Ok. Alors, ça veut dire que il y avait 12 hommes qui sont partis. Il y a deux rapports. Il y a un rapport favorable par combien d'hommes?
Deux
hommes. C'est qui? Josué et Caleb. Ils ont dit quoi? Dieu est avec nous, allons. Mais après, il y avait 10 qui ont dit non, c'est pas possible. Béatrice, s'il te plaît.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront du froid? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec
Pardon.
Nous.
Excuse-moi.
Pardon. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges
C'est étonnant, hein? Merci beaucoup, hein? De voir la réponse de l'Éternel. Et comment il a pris ça? Il a pris ça comme une flagrante insulte, hein? Quand même, le peuple, ils étaient prêts à tout abandonner, hein? Ils voulaient, bon, ben, si c'est comme ça, on va nommer un chef et on va faire demi-tour, on va marcher en arrière, on va tout abandonner. Et combien nous avons ces deux hommes, hein, Josué et Caleb, ils ont déchiré leurs vêtements. Peut-être ils avaient, enfin, toutes les fois qu'ils ont déchiré les vêtements, c'est une angoisse totale. Quand tu pourquoi c'est soit dans la, à cause du péché ou les trucs comme ça, mais là ils étaient tellement déçus, ils ont dit, mais comment? Allez, on va mettre confiance en Dieu, il mérite notre confiance. Dieu est capable, il nous a préparé, il nous a projeté, même dès le départ, en quittant l'Égypte, il avait préparé cela pour nous. Mais il y avait ceux qui n'avaient pas la foi. C'est les enfants d'Israël, les enfants de Dieu. Mais il y avait une grande majorité. Vous avez vu dans le verset 1, ils ont pleuré pendant la nuit. Ils étaient tellement... Ah, pourquoi Dieu nous a emmenés ici? Alors, quelle est la leçon que nous devons retirer de cela? La volonté de Dieu pour nous, est-ce que c'est toujours facile? Non. Si on suit la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il y aura les obstacles. Il y aura les géants à surmonter. Pour eux, c'était les hommes. Pour nous, c'est le géant de l'orgueil. Ça peut être le géant de l'inquiétude. On a les géants, hein, devant nous. Et aussi, en tant qu'Église, nous devons être les personnes, les hommes et les femmes de foi. Alors, j'aimerais vous parler ce matin. Excuse-moi, je change un peu le diapo. Ah, excuse-moi, voilà. Il passe, mais pourquoi il ne me donne pas? Augmente-nous la foi. C'est la parole des disciples de Jésus un jour, après avoir revenu, hein, et ils n'étaient pas, ils n'ont pas réussi les projets de Dieu. Et puis après, Dieu et Jésus les a repris. Et après, ils ont prié au Seigneur, augmente-nous la foi. Et je pense que si nous sommes honnêtes avec nous ce matin, nous devons prier la même prière. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, nous te demandons que tu enlèves toute incrédulité en nous. Seigneur, que tu enlèves tout ce qui est en nous qui ne te plaît pas. Et Seigneur, que nous soyons les hommes et les femmes qui mettent une confiance totale en toi. C'est vrai que nous avons chanté « Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi ». Ô Seigneur, malgré le fait que tu es fidèle envers nous, Seigneur, garde-nous fidèles en toi et pardonne notre infidélité. Et garde-nous, Seigneur, les hommes et les femmes, pleins de foi, pleins de conviction, en faisant ce que tu attends de nous. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bon, le mot 3, nous avons le mot pisti, c'est-à-dire le nom, qui signifie une conviction ou la confiance concernant notre relation avec Dieu et les choses divines. Hein. D'avoir foi, c'est-à-dire d'avoir une conviction, une confiance concernant notre relation avec le Seigneur. Comme il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Hein, » quand même, ça pose problème à plusieurs personnes, parce que là, il dit « Si je le vois, si je peux le toucher, c'est réel. » Et tout ce qui n'est pas visible, C'est pas vrai, hein, c'est pas tangible, on peut pas le toucher. Alors, quelqu'un a dit à un croyant un jour, il dit, mais je vois pas Dieu de tout. Il dit, mais moi, je vois Dieu partout. Et pourquoi ça? Parce que Dieu a enlevé les écailles de nos yeux et nous voyons la main de Dieu. Il dit, mais Dieu n'est pas réel. Mais comment tu peux dire ça? Je lui ai parlé ce matin. J'ai une conversation avec lui, je le vois, il est vivant. Mais c'est par la foi, nous marchons non pas par la vue, nous marchons par la foi. Alors le verbe pistio, verbe grec, pourquoi, signifie être convaincu de quelque chose, donner du crédit à quelque chose. C'est la conviction, la confiance vers laquelle un homme est poussé par une certaine force intérieure plus élevé. Hein. On ne peut pas expliquer la foi. C'est une... Bon, comme la Bible dit en Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des évidences de choses qu'on ne voit pas. Hein. Alors, le mot qui signifie aussi se confier en Jésus, au Dieu, comme capable de faire quelque chose. Ça, c'est la foi qui sauve. Hein. Et quelqu'un a dit ça par rapport à la foi, une petite foi va sauver notre âme. Ben une petite foi va emmener notre âme au ciel, mais une grande foi va remplir notre cœur du ciel, hein, de la présence de Dieu. Alors, d'où vient la foi? Vous connaissez le verset clé?
Romains 10:17.
Ok. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque fois que j'ai parlé avec quelqu'un qui dit, le pasteur, prie pour moi, j'ai la foi ou j'ai les inquiétudes, est-ce que vous passez du temps dans la parole? Qui soutient ma foi? C'est la parole de Dieu qui nous soutient notre foi. Hein? Et combien de fois Jésus, en voyant certaines personnes, il a dit, pour être guéri, il a dit, que ça soit fait selon ta foi. Hein? Après, Jésus a vu une dame un jour, et là, elle est venue, et elle a dit, mais Jésus, elle a dit, mais c'est pas bien pour moi de donner la nourriture des enfants aux chiens. C'est pas une juive. Elle aurait pu prendre ça comme une reproche, mais elle a dit, oui, mais Seigneur, tu sais, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Écoute tout le monde, j'ai pas vu de telle foi. Elle avait une foi, bon, il savait, c'est pourquoi il a poussé l'enveloppe un peu plus fort que nous pensons. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'elle dise ce qui est dans le fond de son âme, afin qu'il puisse dire, ça c'est une chose extraordinaire, j'ai jamais vu de si grande foi. Plein d'histoires où il y a des personnes que Dieu les a remerciées, les a dit, grande est ta foi. Mais à plusieurs reprises, de la même manière, il y avait les disciples où Jésus a dit, homme de peu de foi. Comment ça peut se faire que vous n'avez point de foi? Après tous ces miracles, et quand même les enfants d'Israël, Dieu a dit, mais j'ai fait des prodiges. Toutes les histoires avec Moïse, avec les plaies, aussi d'ouvrir la mer Rouge, le peuple ne peut pas croire que je suis capable. La foi est importante pour être sauvé. On peut parler de la repentance et la foi, la liaison entre les deux. Et en Actes chapitre 20, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Très bien. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire de se repentir. La repentance, ça veut dire de se détourner de nos idoles de péché vers une église. Non, vers Dieu. C'est pas l'église qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mettre foi et confiance que Christ est venu, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Voilà. Le rapport entre la repentance et la foi se manifeste aussi en Jean chapitre 1, 12 et 13. mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, voilà, foi, croire en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok? Après, la grâce et la foi. Est-ce que c'est important pour être sauvé? La grâce vient d'où? C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait miséricorde. Il nous a, en plus, allé plus loin, nous offrir ce qu'on ne mérite pas, son pardon et d'être gracié. Et vous êtes par le moyen de la foi. Mais si la grâce n'est pas accompagnée de la foi, on ne peut pas être sauvé. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La justification et la foi. Qu'est-ce que signifie la justification? Il y a ceux qui parlent. Vas-y.
Être rendu
juste. D'accord. 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 C'est-à-dire qu'on est. On est déclaré juste, ok? Alors, il y a les gens qui mélangent la sanctification avec la justification, des fois. Ils disent, bon, ben, quand je vais changer ça dans ma vie, je change ça, et force à changer ces choses, force à me sanctifier, je deviens juste devant Dieu. Mais la Bible dit le contraire. Vous êtes exempt de la loi, vous qui cherchez la justification par la loi. Bon, nous savons bien que la loi ne donne pas la justification. La loi est là pour nous sanctionner. La loi est là pour nous dire que nous sommes les pécheurs. Mais c'est uniquement Christ qui peut nous justifier. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés, déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, donc vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Hein, il n'y a jamais que les gendarmes vont nous appeler en disant « Bon, mais vous êtes bon conducteur. Pendant toutes les années, on vous donne un petit cadeau. »
Un petit cadeau.
Non. Mais dès que vous criez un petit stop, dès que vous faites un petit moindre infraction, allez, viens là, on va en discuter. La loi. Maintenant, on va pousser l'enveloppe un peu plus loin, parce que quand même, il y a une différence entre la croyance et la foi. Attends, Charles, tu nous as dit que la foi, c'est de croire. Oui, mais il y a quand même une petite différence. Actes chapitre 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ok? Est-ce qu'il y a croire et croire? Ouais, il y a. Regarde, Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La différence est grande entre la croyance de nature purement intellectuelle et la foi de nature spécifiquement spirituelle. Vous avez entendu l'expression « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Ça veut dire quoi en fait? Je crois que Dieu existe. Mais pour l'instant, pas chez moi. Je ne suis pas engagé. Okay? Alors, on peut croire. Hein? Après, la croyance est l'adhésion de la pensée au fait historique et surnaturel. Surnaturel, apporté par la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Les démons ont cette sorte de croyance. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Combien de fois les démons, quand ils sont en face de Jésus, « Ah, on sait qui tu es !» Tais-toi. Est-ce que les démons croient en Jésus. Et quoi? Sont-ils sauvés?
Non.
Vous voyez la différence entre la foi et la croyance. L'incrédulité, qui est le contraire de la foi, l'incrédulité n'est pas l'ignorance ni l'incapacité de croire. C'est la décision volontaire de refuser à Dieu de faire son œuvre dans notre vie. Dans ces conditions, il est possible de croire par des preuves historiques incontestables que Jésus a existé, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour ôter le péché du monde et ne pas être sauvé si on ne l'accepte pas. Voyez là, la petite nuance. La foi est un don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit agissant en tous ceux qui sont nés de Dieu. Elle est confiance totale, ferme assurance dans les promesses de Dieu. Ok? Bon, est-ce que vous avez exercé la foi ce matin? Je vois que vous êtes assis. J'ai vu personne qui n'a pas. Avant de s'asseoir, on est venu et plouf, on se met dans les chaises. Bon, des fois, ça peut nous faire les tours. Hein? Peut-être votre voiture. Il faut beaucoup de foi. Hein? Ouais, Seigneur, est-ce que ce truc va démarrer? Une autre fois, non, je confiance dans ma voiture, elle démarre. Mais, des fois, enfin, on utilise beaucoup de foi ou beaucoup de confiance. Mais où est notre foi? Est-ce que nous avons une foi petite ou une foi grande? En Nouvelle-Calédonie, on avait les Wallisiens. Et les Wallisiens, c'est des armoires, hein, 160 kilos, 2 mètres 5, certaines. C'est des armoires belles, donc c'est des hommes comme ça. Mais aussi, j'avais vu les tout petites dames à côté, et je me suis dit, waouh, il y a une grande différence entre les deux. Et après. Après avoir parlé avec ces deux personnes, j'avais un peu l'impression que si le Seigneur peut nous donner ses lunettes à lui, et après, en regardant ces deux personnes, un homme bien braqué, une petite dame, en fin de compte, à travers les yeux spirituels, je peux dire que la foi de la dame, elle est plus grande que le monsieur, et la foi du monsieur était plus petite que la petite dame. C'est ça, comment lui, il avait beaucoup d'inquiétudes. Mais là, la petite dame, elle avait beaucoup moins que lui, en plusieurs niveaux, mais elle était un géant de la foi. Alors, ce qui est, j'apprécie beaucoup de ça, c'est que là, il n'y a pas homme, femme, il n'y a pas race, classe, il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un d'avoir une foi. D'être ferme et solide dans leur foi, dans leur confiance. Alors, nous avons parlé de la foi en ce qui concerne de notre salut. Et si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, j'aimerais vous encourager de mettre foi, confiance totale. Car il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. C'est une bénédiction. Et il faut tout simplement un peu de foi en disant, ok Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi, je viens de toi, je mets ma foi en toi. Et là, Dieu nous sauve. Maintenant, la foi est importante pour plaire à Dieu. Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Est-ce que c'est possible que notre vie plaît à Dieu? Oui? Quel est l'élément essentiel pour plaire à Dieu?
La foi.
Regarde bien ce verset, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est, dis-le avec moi.
Okay.
Si Dieu dit quelque chose qui est impossible, est-ce impossible? Si nous disons que quelque chose est impossible, peut-être c'est impossible pour moi, mais pour Claude, peut-être c'est possible. Mais quand Dieu dit que c'est quelque chose d'impossible, Impossible. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est essentielle. Hein? Quand Dieu a vu la foi, il était touché à chaque reprise. La foi est importante pour la prière. Qu'est-ce que la Bible dit en Jacques chapitre 1, verset 5 ? Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à qui ? Qui donne ? Tout simplement, c'est pas prêter, hein, c'est bon. Hein. Qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté de l'autre. Quand nous prions, il faut exercer la foi. Quand même, il y a un petit parenthèse, je dois rentrer. Il y a les versets qui disent, ce que vous demandez avec foi vous sera accordé. Est-ce que ça vous était un marché à chaque reprise? Est-ce que la foi est capacité de croire? Non, la foi n'est pas notre capacité de croire. C'est pas nous de, ok, je vais croire que le Seigneur va me donner, je ne sais pas, une belle maison, qui me donne des richesses. Je crois ça et puis, il n'y a pas. Alors, comment le verser? Mais quand nous prions, cela a la volonté de Dieu. Et que nous savons que notre prière est en harmonie avec la volonté de Dieu. Bon, quand même, c'est assez difficile. Et ce n'est pas à nous de commander Dieu, non plus. Hein? J'avais un ami qui est allé avec moi en Calédonie. Il y avait une dame qui était mourante, elle avait le cancer. On est entré, le jeune homme, il a prié, il a dit, Dieu, je sais que tu vas le guérir, tu es capable de te guérir, tu vas le guérir. Ça va faire un témoignage à tout son tribu, que tout le monde sache que tu es capable de le guérir. Et il est mort. Le lendemain. J'ai vu le frère, parce que tout de suite j'ai appelé, j'ai dit, il faut qu'on se voit. Ouais. Il était. Elle dit, mais comment? Et mon frère, ce n'est pas à nous de commander Dieu. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Créature dit à son créateur. Le vase d'argile dit au potier comment il faut faire. Il vaut mieux prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et dans la suite, on a vu que Dieu était glorifié par sa mort. Et Anna, tu ne connais pas. La belle-sœur à Élie, tu ne connais pas. C'est une dame pleine de foi. Quand on est entré de voir cette couple, on est. Bon, quand on est à l'hôpital, on n'est pas. Hein, on est entré dedans. Hé hey, comment tu vas, Charles? Ça va, Jésus? Attends. Au moment, les gens, ils ne sont pas heureux quand ils sont dans les. Elle dit, mais nous avons mis confiance en Dieu. On a mis notre vie entre les mains de Dieu. Si je vis ou si je meurs, c'est entre les mains de Dieu. Que Dieu soit la gloire. Et comment le vois-tu?
Ben non, moi, je n'ai rien par rapport à ça.
Mais de demander avec foi. C'est-à-dire que quand nous. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les passages de la parole de Dieu. Par exemple, si quelqu'un d'entre vous le manque de sagesse. Qui demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, lui soit donné. Alors ça c'est une promesse. Ok Dieu, j'ai pas la sagesse, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors je te demande avec foi parce que je sais que tu vas me montrer. J'ai la foi, j'ai la conviction que tu vas me montrer. Et merci d'avance. Hein? Parce que nous on prie selon la volonté de Dieu. Un autre verset que j'aime beaucoup, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alors, allez, Seigneur, tu l'as dit et je le répète. Seigneur, tu as dit que si je t'invoque, si je te demande, tu vas me montrer les choses cachées que je ne connais pas. Il y a quelque chose un peu louche, chelou dans le truc là, je ne connais pas. Seigneur, aide-moi. et là, il me fait. Et je peux prier avec foi. Pourquoi? Parce que je prends une promesse de la parole et je sais que Dieu il va accomplir ses promesses. Il faut faire un peu attention de ne pas prier. Il a dit, vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas. Hein, parce que vous demandez mal. Des fois, je demande mal. Ou des fois, dans la prière, je vois qu'une côté des choses. Je prie un peu selon ce que je vois. Et après, Dieu me montre et oh, oh, il y a des choses que tu ne connais pas là. Ah, il me révèle ça. Je commence à prier d'une autre manière. Dieu nous conduit dans la prière. Parce que des fois, on prie mal. Bon, il s'en reproche. Hein. Il ne va pas nous dire, ah, vous êtes bêtes, vous n'arrivez pas. Non, il ne va pas nous dire comme ça. Mais il veut que nous prions selon sa volonté. La foi est importante pour se protéger du mal. Est-ce que vous pouvez penser le verset Éphésiens, chapitre 6. Prenez par-dessus tout, c'est l'armure, hein? Le bouclier de la foi. Bouclier, pour faire quoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que le malin il cherche à détruire en nous? Notre foi. S'il peut nous mettre dans une position où on met Dieu en question, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Est-ce que Dieu a dit? Ah bon? Est-ce qu'il vient à nous pour dire la même chose? Bien sûr. Il attaque notre foi. Il sait qu'il ne peut pas nous enlever de la main de Dieu, car il sait que Dieu... Mais là, il cherche à nous mettre Dieu en question. Il veut que notre foi soit faible. 2 Corinthiens 9, verset 7, et que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est l'importance quand on donne notre argent, il faut la foi. La semaine dernière, nous avons parlé de la petite dame hein, qui avait le petit, même pas un centime. Elle a mis tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis toute sa vie entre les mains de Dieu. Elle a dit, Dieu y prendra soin de moi. La vie, vivre par la foi. Bon, on vit bien quand le compte en banque et ça va. Quand tout va bien, on est bien. Hein? Mais là, cette dame-là, elle a donné tout au Seigneur. Mais est-ce qu'il faut la foi pour croire que Dieu est capable de prendre soin de vous? Vous vous rappelez la veuve de Sarepta. Le prophète est passé. Elle a dit, mais fais un gâteau pour moi. Elle a dit, mais il n'y a que moi et mon fils, et là, on va faire le... Il n'y a qu'un pain, assez de farine pour un seul pain. On mange ça et on meurt. Il a dit, fais premièrement. Pour moi. Ok. Sans douter, elle a fait. Et le lendemain, attends, il y avait encore. Là, sur un... Ah, il y avait encore. Il y avait encore. Mais il faut la foi. Il faut la foi. Et que quand on donne, comme on l'a fait sur lui dans son cœur, pourquoi? Sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand j'étais aux États-Unis, mon père, il m'a parlé d'un truc, il a dit, au début, j'avais un peu du mal, il a dit, mais j'ai commencé à voir une règle de 15 secondes. Je sais quoi, une règle de 15 secondes. Il a dit, en ce qui concerne de donner pour aider quelqu'un, parce qu'on a vu un peu les mendiants, et normalement, mon père, il ne fait pas comme ça. Quand même, il s'est arrêté, il a parlé avec la dame, il a témoigné, et puis il a donné l'argent. Bon, il a posé certaines questions, son histoire n'était pas très claire. C'était, est-ce qu'elle va donner, est-ce qu'elle va utiliser pour... Et puis quand même, il a donné. Et il a dit, mais tu sais, je me suis dit, Je prends le Seigneur mettre quelque chose sur mon cœur. Il faut que j'agisse dans les 15 secondes. Parce que si j'attends plus que 15 secondes, je vais me justifier pourquoi je ne dois pas. Je dis, ouais, mais quand même, papa, on ne doit pas être impulsif. Il y a peut-être les choses qu'on ne sait pas. Elle dit, mais réfléchis-y. Je dis, ok. Et c'est vrai. Hein? Quand le Seigneur met quelque chose sur notre cœur, bon, il faut l'étudier. Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur, ou est-ce que c'est moi, est-ce que c'est... Mais quand nous savons que ça vient de Dieu, il faut le faire. Et Dieu y bénit. La foi est importante pour emmener des âmes à Christ. Hein? On ne peut pas sauver les gens. Hein? Mais nous pouvons les emmener à Christ. Vous vous rappelez l'histoire en Matthieu chapitre 9. Il y avait un homme paralytique. Le paralytique, il y avait les 4 hommes qui ont pris son lit, l'avaient emmené à Jésus. Quand ils arrivent à la maison était comblée de personnes qui avaient besoin d'être guéries. Et là, ils ont dit, obstacle. Mais on va démonter la toiture, on va le faire entrer parce qu'il faut que cet homme y voit Jésus. Et c'est ça ce que nous avons besoin. Nous devons besoin emmener ces personnes à Jésus. Ils ont démonté le toit, la poussière est descendue. Jésus, il regarde en haut, il dit quoi? Voyons leur foi. J'aimerais vous encourager ce matin que chaque fois que vous mettez foi et confiance en Dieu, Jésus le voit. Dieu le voit. Le Saint-Esprit le voit. Ben, peut-être les autres ne voient pas. Ah, ça, c'est pas important. Jésus a vu. Et dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais après, ce n'était pas la foi de ces hommes qui a sauvé le malade. Parce que Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme, il aurait pu rester là en disant, mais Jésus, tu sais, je ne suis pas capable, hein, je suis comme ça, c'est gentil les 4 mecs, hein, mais je ne peux pas. Hein. Génial, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, ben, on va essayer. Hé, ça marche. C'est ça la foi pour nous. Dieu, il nous demande d'agir. Mais venez à moi. Ok, je viens. Et là, le Seigneur, il donne. Ah, on entre dans un passage préféré. La Bible, la foi est importante pour avoir la victoire. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes devant des grandes décisions pour la suite de notre local. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël qui avaient la crainte et qui se sont mis en question, qui ont voulu tourner en arrière. Seigneur, que nous soyons comme Josué et Caleb, qui avaient une foi et une confiance totale que tu es capable de tout faire. Seigneur, donne-nous la sagesse. Parce que nous le manquons. Nous prions avec foi parce que nous savons que tu as une réponse pour nous. Et Seigneur, que tu nous disposes dans ton cœur d'être prêt, capable de tous nos moyens de faire ce que tu attends, car tu mérites. Merci Seigneur pour ta parole qui soutient ton choix. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous augmenter la foi. La foi qu'on avait hier, ce n'est pas suffisamment pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas assez pour demain. Chaque jour, aide-nous, Seigneur, de marcher par ta foi. Merci pour tes promesses. Merci pour tes provisions.
C'est vrai, Seigneur, tu prends bien soin de nous. À toi la gloire, au nom de Jésus.